Nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Barthas.
En direct.
Sur le 107 FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107, nous sommes, c'est incroyable, le lundi 7 juin, il est 8h30, si la table de mixage pouvait parler, elle lui dirait sans doute qu'il lui fait du bien, à la technique Corto, salut.
Salut Ben. Et bonjour à tous.
Au programme de cette matinale, nous serons dans un instant avec Grégory par téléphone du Blue Back Théâtre et qui font le spectacle Zai 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 qui se jouera en plein air au Square Émile Joly à Mende ce samedi 12 juin à 21h15. On en parle avec lui dans un instant. Et en deuxième partie d'émission, c'est Lou qui nous rejoindra et nous parlerons de son élevage équin, en d'autres termes, de son élevage de chevaux. Il y aura de la musique comme d'hab, mais si tu veux bien mon corto, on y va pour l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperie que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Barthas.
Après avoir multiplié les engagements ces derniers jours, il ne pouvait se dérober aux attentes. Samedi, dans l'après-midi, les ministres des Finances du G7 ont annoncé un accord qu'ils n'hésitent pas à qualifier d'historique sur la taxation des multinationales. À l'issue de leur sommet à Londres, les responsables des 7 économies occidentales se sont entendus pour engager un projet de réforme de la fiscalité mondiale visant à fixer un impôt au taux minimal mondial sur les sociétés de 15%. En France, il est à peu près de 3%. La satisfaction affichée par les uns et les autres est à la mesure de leur appréhension passée. Le multilatéralisme vit encore. Après des années Trump, les conflits et sanctions commerciales à répétition des uns contre les autres, le gouvernement américain est prêt à renouer le dialogue avec ses alliés. Et pour leur première rencontre depuis plus d'un an en raison du Covid, les ministres des Finances sont parvenus à trouver un début de terrain d'entente sur un sujet de discorde qui les divise depuis des années, la fiscalité justement des multinationales. L'annonce de ce projet d'une taxation minimale des multinationales fixée en fonction des ventes réalisées dans les pays et non plus de l'emplacement du siège marque un tournant. Poussé par des opinions publiques qui ne supportent plus l'évasion fiscale et le règne des paradis fiscaux, les responsables acceptent de donner un coup d'arrêt à la concurrence fiscale entre les pays, devenue la règle internationale. C'est plutôt une bonne nouvelle. Curieux de voir comment ça va se terminer tout ça. La réponse pour acter tout ça, ce sera en juillet. On croise les doigts surtout que le fameux « quoi qu'il en coûte » du président de la République, bah, ça va quand même nous coûter cher un peu tout ça. Allez, on se retrouve dans un instant avec Grégory, on parle du spectacle Zai 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 Zai. On écoute d'abord MC Solar et Bambi Cruz, ça me faisait marrer, « L'homme qui voulait 3 milliards ».
Yes, yes, hip-hop banque, hip-hop banque, avec DJ Cash billet derrière le guichet. Prenez place, asseyez-vous, assoyons-nous. Que puis-je faire pour vous?
Je veux une mallette pleine de cash, mec, surtout pas de chèque. Pas de billets marqués, t'es taré, c'est carré ou je t'efface net. Des baskets à mes yeux. Et si tu te fous de moi, je te rattrape et te casse la tête à coups de bout de bois. Conquérant du nouveau monde, brune rousse et blonde, tenez-vous prête, on fera la fête quand j'aurai les pépettes. Mon crédit est refusé et mon banquier est smart. Parce que je suis l'homme qui voulait 3
ça
milliards.
Ça va être possible à l'instar de Zelda. Ouvrez EPPE, après on verra. Vous aurez droit à des tas de chèques payants, une carte de crédit, un plan épargne logement. Route de la banque ou route de la banqueroute, c'est des routes, les factions cassent pour leur casse-croûte. Pas de contentieux avec les comptes en Suisse. Jesus, c'est Crésus qui crée le consensus.
Parce que je suis l'homme qui voulait 3 milliards. Parce que je suis l'homme qui voulait 3 milliards. Parce que je suis l'homme qui voulait 3 milliards. Je suis l'homme qui voulait 3 milliards.
Trouve à Beverly Hills et les petites coupures sont dans les bidonvilles. Visa Mastercard, American Express, c'est Los Angeles, à Garge les gonesses. Les gosses font du business dans les halls, nage la brasse quand la finance elle crawl. 3 milliards pour affréter cargo, Dix, faux Lacoste, double zéro. Faites vos lises, mes collègues blanchissent. Île anglo-normande, Saint-Martin et puis Suisse. La banque c'est la bonne planque, je m'y planque et sa banque. Tu voulais 3 milliards, viens avec un tank.
Parce que je suis l'homme qui voulait 3 milliards. Parce que je suis l'homme qui voulait 3 milliards. Parce que je suis l'homme qui voulait 3 milliards. Je
suis l'homme qui fout les 3 milliards.
J'accède, France, Suisse, Yen et Deutschmark. Pour faire construire dans ma cité un putain de skatepark. Vas-y Bill Gates, une petite mallette tu le sentiras même pas. Si tu le fais pas c'est que tu nous aimes pas. La vie c'est pas un gain de terrain, un monopoly. Cacher des milliards de dollars sous son plumard c'est du joli. Molly m'a dit, impossible de refuser de jouer. Nous sommes des pions dans les mains de quelques privilégiés. Alors d'accord c'est hardcore, je suis le fou qui kiffe l'or. Bouffe la reine puis apporte le trésor au quartier nord. Dès lors on jouera plus au loto. Tous à l'aise vieux, en nouveau proprio de la française des jeux. Je rêve mieux, plus loin, plus sain. Canalise l'énergie des cités pour créer 1000 entreprises. T'es riche, fortuné, tu veux m'aider, c'est bonnard. Au fait, les 3 milliards c'était en dollars.
J'ai des tas de trucs à faire dans le monde des affaires, mais je sais pas comment faire sans être milliardaire. J'ai des tas de trucs à faire dans le monde des affaires, mais je sais pas comment faire sans être milliardaire. Parce que je suis l'homme qui voulait 3 milliards. Parce que je suis l'homme qui voulait 3 milliards. Parce que je suis l'homme qui voulait 3 milliards.
L'homme qui voulait 3 milliards, MC Solar, Bambi Cruz, tiré de l'album 5e Masse. De retour en plateau, et nous sommes par téléphone avec Grégory, bonjour.
Bonjour.
Tu es comédien, metteur en scène, c'est ce samedi le spectacle Zaï 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 en plein air au Square Émile Joly à Mende, ce sera à 21h15, et oui, il n'y a plus de couvre-feu, enfin si à 23h, on va en parler, mais déjà ça doit faire un bien fou de retrouver les planches.
Oui. Oui, c'est sûr, là on sort du congélateur là. C'est fini la cryogénisation.
Ah, tu vas nous dégeler tout ça, c'est sûr. Alors, le Blue Tag Théâtre, c'est la compagnie. Alors, quand et comment elle est née cette compagnie?
C'est une compagnie que j'ai créée en 2012 à Toulouse, et elle est née à la suite d'un parcours personnel que j'ai effectué dans des compagnies régionales majeures. Mmh. Et j'ai eu envie d'élaborer mon propre vocabulaire scénique à un moment, et c'est imposé l'envie de monter tout d'abord l'augmentation de Georges Perec. Voilà, j'avais envie de parler du monde du travail avec humour, avec l'absurde, avec un décalage qui nous est propre à présent.
Et donc ce samedi, c'est le spectacle Zaï 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 que tu présentes. Tout est parti d'un roman graphique de Fab Caro, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Je découvre cette BD en 2015 et puis je décide de la monter deux ans plus tard. Voilà, et ça nous amène ensuite aux deux ans de production et à la création, ce 6 octobre dernier en 2020. Et ma foi, on a été stoppé en plein élan,
mais
c'est un travail qui a été reçu par le public de Rodez, on l'a créé là-bas avec beaucoup d'enthousiasme. Donc Fab Caro, c'est un auteur de la région, hein, enfin de votre région, il habite à Dédarieux. Il est édité dans une édition indépendante.
C'est les éditions Six Pieds Sous Terre.
Montpellier-Rennes, voilà, Six Pieds Sous Terre, tout à fait. Et donc il nous tient particulièrement à cœur cette créa, qui est un road movie théâtral, hein, de l'amener sur les routes et notamment de l'amener jusqu'en Lozère, puisqu'une partie de l'histoire se passe en Lozère.
Alors, justement, avant de parler de la trame du spectacle, comment on bosse pour adapter comme ça un roman graphique? Est-ce que tu avais déjà des images, ça t'est venu tout de suite, ou alors est-ce que tu as dû redécouper? Comment ça se passe?
On a dû adapter, oui, parce que le découpage de la bande dessinée lui est propre, et le temps de la représentation lui nécessite peut-être une autre temporalité, et donc on a dû regrouper quelques séquences, bidouiller un petit peu dans la trame narrative pour que la narration théâtrale soit plus simple à appréhender,
plus fluide.
Donc voilà, quelques découpages et de l'adaptation. Et ensuite, comment c'est venu? Déjà, moi, c'était un des matériaux qui m'avait le plus marqué, hein, qui me permettait d'aborder des sujets qui me tiennent à cœur, le rapport des dominants-dominés, une critique sociale drôle, acerbe, mais qui a vraiment du fond. Hein. Et donc je m'empare de ce matériau un peu comme un challenge. Hein. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui était prévu pour le plateau, pour le théâtre. Et là, le premier défi pour nous, c'était de effectivement de le transposer dans cette boîte, de passer de la case BD à la case théâtre, avec ceci de très tenace pour nous, de, qui était de rendre hommage au, au road movie aussi et à ses codes narratifs et de se propulser là-dedans en direct. Sur le plateau de théâtre hein, puisque j'ai un avec moi je l'appelle souvent mon Sancho Panza j'ai un vidéaste absolument talentueux qui permet de concevoir toute l'adaptation graphique tout le traitement graphique en direct sur le plateau
c'est ça parce que quand tu... Quand tu dis on ou nous, c'est-à-dire que oui, tu es seul sur scène, mais il y a du bidouillage vidéo, mais vous êtes aussi plusieurs à avoir bossé sur ce spectacle.
Ah oui, oui, il y a toute une équipe que je remercie grandement déjà pour leur présence et leurs belles idées, leur bonne humeur. Et effectivement, on a donc j'ai sur scène avec moi Hugo Moreau qui a la conception et au bidouillage vidéo. J'ai été aussi assisté à la mise en scène par Mélanie Briand, qui s'est aussi occupée de la dramaturgie, et puis on a conçu un peu la trame narrative ensemble. J'ai aussi un dessinateur qui, puisqu'on s'est pas contenté de reprendre les planches de Fab Caro, qui aurait été un peu simpliste pour moi. Donc j'ai branché notre graphiste là-dessus. Brice De Vos, qui est resté dans sa dans la ligne graphique de Fab Caro, hein, sans le plagier non plus, mais sur un trait épuré, très minimal. On a aussi une création lumière, hein, Guillaume Redon, qui aide à mettre, qui peaufine l'écrin de ce petit bijou, j'espère. Une création musicale aussi, puisque on est parti d'une somme de contraintes comme ça, dans lesquelles on a pu trouver beaucoup de liberté. Nous, j'ai branché Ozias, un musicien qui nous a fait toutes les créations musicales à partir du thème de Zai 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 Zai, hein, de Joe Dassin.
Ouais.
Et s'ajoute à tout ça un créateur sonore qui aide à parachever les ambiances sonores et les décors puisqu'on se défie de tout réalisme avec le traitement graphisme et la création sonore on tente d'amorcer des différents décors et que le spectateur parachève par sa propre imagination.
On vient de parler
bien sûr toute une équipe de production derrière que je remercie aussi, Lucie Chrétien, Catherine Sirifoum, voilà, qui s'occupe du développement de la compagnie.
Et travailleurs et travailleuses de l'ombre, fameuse équipe en tout cas. Alors, un petit synopsis du spectacle, c'est quoi la trame?
Alors, ce spectacle, c'est l'auteur, c'est l'histoire d'un acteur de théâtre hein, qui fait ses courses et qui réalise qu'il n'a pas sa carte de fidélité sur lui. la caissière un peu paniquée appelle le vigile. Quand celui-ci arrive, l'auteur le menace et parvient à s'enfuir. Et là, la police est alertée. Les médias s'emparent de l'affaire et là s'engage donc une chasse à l'homme, une traque sans merci, où le fugitif est amené dans sa cavale à traverser la région. En stop, hein. Il bat la campagne et puis on se propulse comme ça dans un road movie où il est partagé entre remords et questions existentielles. Il rencontre différents protagonistes, voilà, qui vont bouleverser un peu le continuum de sa cavale.
Ça, tu dis que c'est, vous dites que c'est un road movie statique, existentiel et autonome.
Oui, oui, oui. Alors ça, c'était un des défis. Oui, on voulait faire on voulait appeler au mouvement, mais sur place.
Ouais.
Donc c'est vrai, un road movie statique, oui. On reste sur place, mais la cavale est bien là. Existentielle, évidemment. Le road movie et ses codes narratifs nous amènent toujours à nous poser à un moment une question essentielle sur la place qu'on a dans la société, ce pourquoi on prend la fuite, hein, le fameux hit the road.
Yes.
Et donc c'est à partir de cette rupture que le protagoniste marque avec la société que s'élabore toute une pensée, quelle place avons-nous encore ici, ne pourrait-on pas construire un monde plus beau,
ouais,
plus juste.
Vous croisez les doigts, et puis c'est un peu, ça résonne un peu à l'époque et à ce qu'on voudrait tous, en fait.
C'est ça, oui, oui. Alors bah, là, c'est flagrant. Hein, là, les planches de Fab Caro sonnent terriblement justes. Et puis cette espèce de bascule là qu'on a opéré dans l'absurde, puis un espèce d'autoritarisme un peu malaisant, hein, là donne une véritable actualité, hein, c'est clair, ça sonne juste, on est quelque chose, enfin une histoire qui parle de nous.
Qu'est-ce
voilà,
que...
et puis moi je peux plus m'empêcher de frémir dès qu'on me demande ma carte de fidélité à la caisse. Je suis prêt à bondir et à m'échapper aussi.
À quelles émotions doit s'attendre, en plus du malaise, entre guillemets, hein, doit s'attendre le public samedi? Qu'est-ce que t'en espères, toi?
Alors, bah, ce que je, la première émotion, déjà, c'est celle du rire.
Mmh.
Hein, on espère faire rire et embarquer les gens dans ce décalage qui, selon nous, permet de poser un regard différent sur des questions actuelles, mais cependant quand même assez dense. Et donc ce qu'on propose, nous, c'est une tonne de réflexion, voilà, sans faire la morale, sans donner de réponse. On suggère des questions et puis le public s'en empare. Mais effectivement, la première émotion, c'est celle du rire, oui.
Ouais.
Oui, oui. Un rire salvateur.
Ah, tu m'étonnes. Pour revenir à la situation que le monde du spectacle a vécu et va vivre, beaucoup disent qu'il va y avoir des embouteillages tellement il y a des spectacles qui ont été créés. C'est quoi ton avis là-dessus?
Alors, bah oui, embouteillage, il y a déjà, hein, oui, oui, il y a une espèce de l'effet d'entonnoir, là. Alors, le monde du spectacle tente de tout faire passer, mais non, il y a malheureusement des camarades qui vont rester sur le bord de la route.
Malheureusement.
Alors, nous-mêmes, on est allé de report en report. On a une tournée ensuite avec la scène nationale d'Albi au fil du Tarn qui a été reportée cet été.
Mm-hmm.
Voilà, pour lequel on va jouer 11 dates. Donc nous, les choses se passent plutôt pas mal. On a pu avoir quelques reports sur la saison prochaine.
Mmh.
Et puis, malgré tout, pendant cette période de cryogénisation, là, on a quand même pu présenter le spectacle à des professionnels.
Mmh.
Qui ont apprécié, d'ailleurs, et qui nous le rendent bien, puisqu'on est programmé, on a une quinzaine de dates encore l'an prochain.
Ouais, grand bien vous
fasse. On avait 25 dates cette saison.
Grand bien vous fasse. Et on sent en plus que le public a plus que jamais envie de retourner au spectacle. T'es plutôt confiant pour l'avenir de la culture en général, ou t'as peur?
Oui, je pense qu'il va y avoir une appétence là. Alors oui, je suis plutôt confiant. Je pense que les gens vont retourner retourner dans les salles. Mais à nous aussi, de l'intérieur, de se questionner, de voir comment on peut, je pense, réfléchir les choses autrement, être un peu moins dans la tentation productiviste, hein, parce que c'est vrai que ça va faire très vite. Et il faut beaucoup de temps pour mener des projets en spectacle vivant, hein. Il faut presque 3 ans pour amener un spectacle sur un plateau, avec 2 ans de travail en amont, de production, avant de passer sur les répétitions. Mais je suis assez confiant, sur le retour du public. Je crois qu'il va y avoir, une grosse demande et puis une nécessité de faire communauté, hein, parce que c'est un endroit particulier quand même, hein, la salle de spectacle. Hein, au moment où on lutte contre toute forme de communautarisme, moi je maintiens que à un moment, un temps donné, on fait communauté, on prend ensemble une proposition, elle nous bouscule ou pas, et puis ensuite elle chemine. Pour qu'on puisse échanger et puis ouvrir la discussion. Je crois très fort à ça.
En tout cas,
il y a vraiment du commun là.
C'est sûr. En tout cas, allons siffler ensemble, non pas sur la colline, mais au square Émile Joly à Mende, le spectacle Zaï 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 par le Blue Tack Théâtre, pardon, avec Grégory. Ce sera à 21h15. Le couvre-feu est à 23h. On avance, on avance. Merci beaucoup, Grégory.
Merci à vous.
Et bon spectacle samedi. Avec plaisir. Ciao.
Au revoir.
On se retrouve dans un instant pour parler de l'élevage de chevaux de loup. On écoute d'abord The Interrupters, Take Back the Power. C'est parti.
What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time to take back the power. What's your plan for tomorrow? Are you a leader? Gonna do when they show up in black suits on your street and our mid boots and then silence you. What you gonna say when they strip your rights away and the tax man makes you pay? Let me be honest, what you feel today. We don't need to run and hide. We won't be pushed off to the side. What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time to take back the power. What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time to take back the power. Who you gonna trust when the judge is so unjust and the jury must discuss? Say you don't look like one of us. Where you gonna turn now the court has been adjourned and the lessons that you've learned are not as many as the prison burn. We don't need to run and hide. We won't be pushed off to the side. What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time to get back the power. What's your plan for tomorrow? Are you a leader?
Are you a fighter or will you cower? It's our time.
Nous sommes ce matin avec Lou, bonjour.
Bonjour.
Ah, c'est un plaisir de t'accueillir et aux joies de mon boulot, c'est une première pour moi. On va parler de toi et de ton élevage équin. Corto, je suis content, je t'ai appris un mot. J'en suis très très content, on parle de chevaux ce matin. Alors est-ce que tu te souviens quand est-ce qu'elle a commencé cette passion pour le cheval ?
Voilà, la passion pour le cheval, elle a commencé il y a longtemps. J'étais vraiment en gamine. Hein. J'ai commencé l'équitation à 5 ans. Et je pense que j'ai commencé à aimer les chevaux avant, parce qu'il y en avait un petit peu au village. Et donc, ouais, ça fait vraiment longtemps.
Des années.
Voilà.
Ton élevage est à Croupillac, c'est ça ?
À Croupillac, enfin, en partie à Croupillac et un peu partout autour, parce qu'il faut des terres.
Il faut de l'espace, ouais.
Et donc, on n'est pas en Normandie ici, on n'a pas beaucoup d'hectares d'un seul tenant, donc je me suis débrouillée, j'ai du terrain autour de Florac principalement.
Comment et quand est-ce qu'elle a commencé cette aventure ?
Alors, vraiment l'élevage équin ?
Ouais.
Donc l'élevage équin, en fait, moi je suis déclarée cotisant solidaire en tant qu'éleveuse depuis seulement 2020. Voilà, donc c'est tout récent. Maintenant, ça fait longtemps que je travaille dessus.
Ouais, il faut du temps, ouais.
Oui, il faut du temps. Faut du temps pour s'y connaître, faut du temps pour se lancer. Faut beaucoup de temps et de l'argent.
Évidemment, on va en parler d'ailleurs.
Voilà, exactement.
C'est quoi le plus dur quand on crée un élevage comme ça ?
L'organisation, beaucoup. Les financements, beaucoup. Parce que
justement, ils viennent d'où ?
Alors là, je suis totalement auto-financée, ouais. Et autant dire que pour le moment, ça me coûte beaucoup plus que ce que ça me rapporte. Mais bon, c'est le but du jeu aussi, hein. Donc voilà, j'espère qu'il y a un moment donné où ça pourra être rentable.
Ouais, c'est sûr que ça va être. Alors aujourd'hui justement, t'as combien de chevaux et de quelle race ?
Alors, pour le moment, j'ai 2 poulinières seulement. Donc je vais rester tout petit élevage. J'ai 2 poulinières, une pouliche de 1 an, donc qui est née l'année dernière, ma première pouliche de l'élevage, et 2 poulains qui sont nés cette année. J'ai aussi une vieille jument de 25 ans, ma première ponette, qui fait office de nounou pour les poulains. Voilà.
On en parlera tout à l'heure justement de comment ça se passe un peu tout ça. Et évidemment, quand on parle d'élevage, on parle aussi de vente. Alors déjà, ça doit pas être facile pour toi de te dire « je dois me séparer de lui ou d'elle ». Alors, à qui ils sont destinés ? À qui tu les destines ? Et toi qui as une éthique et qui aime tes chevaux, comment ça va se passer avec les acquéreurs ?
Alors, en fait, moi là, je fais de l'élevage de chevaux de sport qui sont plutôt axés saut d'obstacles ou concours complet, parce qu'il y a plusieurs disciplines. Ici, en Lozère, on a principalement des élevages de chevaux d'endurance, parce que on est un peu sur les terres d'endurance ici.
Et donc, on reviendra sur les 160 km tout
voilà.
À l'heure.
Voilà, mais donc voilà, moi c'est pas ça du tout que je fais, c'est pas du cheval d'endurance. Donc c'est des chevaux de race sel français ou sel étranger, donc belge. Moi je connais bien les pédigrés des chevaux belges, parce que j'ai été longtemps en Belgique, et donc c'est un peu là-bas que je me suis formée sur tout ce qui était origine de chevaux de saut d'obstacle et tout ça. Et donc voilà, moi c'est un mélange de races européennes de chevaux de sport, voilà.
Et justement les acquéreurs en fait, quand ils vont venir, ils doivent aussi avoir une éthique, parce que je veux dire, on va pas, entre guillemets, le mot est fort, mais torturer les bêtes quoi.
Non, complètement, donc voilà, c'est... Moi, mon éthique c'est vraiment, bon, j'élève des chevaux pour vraiment me faire plaisir et faire plaisir aux chevaux, enfin voilà, le but c'est de que tout se passe bien. Et donc dans les acheteurs que je vais rechercher, je recherche également des gens qui vont prendre soin des chevaux, donc c'est des chevaux qui sont destinés à la compétition, mais malgré tout j'ai envie qu'il y ait quand même quelque chose de beau qui se passe et que ce soit pas purement du commerce. Voilà, j'ai envie qu'il y ait vraiment une relation avec le cheval, j'ai envie que ceux qui achètent le cheval le gardent et l'exploitent à leur façon, mais voilà, moi j'aimerais qu'ils puissent les garder, voilà.
Comment, est-ce que c'est facile de déterminer le prix d'un cheval ?
Non, c'est pas facile, non, c'est pas facile, donc on a des catégories de prix, on va dire. Le prix du cheval, il dépend de plein de choses, il dépend du pédigré, il dépend de l'âge, il dépend de la qualité, il dépend de vraiment beaucoup, beaucoup de paramètres, donc... On a des catégories. Après, si on vend le poulain foal, c'est-à-dire jusque 6 mois, voilà, à 6 mois, c'est le sevrage. Et ensuite, jusqu'à 1 an, ensuite jusque 2 ans, ensuite à 3 ans, ils sont dressés. Donc là, il y a une autre catégorie de prix. Et ensuite, ils sortent en compétition. Donc là, il y a encore une autre catégorie de prix et surtout qui sera réévaluée à ce moment-là. Puisque voilà, on peut estimer un foal qui soit très cher à l'âge de 6 mois. Ouais. Et puis bon, ben, on sait jamais, hein, il peut se blesser avant 3 ans, il peut ne pas montrer toutes les qualités qu'il montrait poulain, voilà.
Ça vit beaucoup de paramètres. Ça vit une vingtaine d'années, 30 ans même un cheval.
Ouais, une trentaine d'années, ouais.
Trentaine d'années. Est-ce qu'on sait vite à quoi va être destiné un poulain? Donc, toi, tu t'es spécialisé dans la course, mais il y a aussi le cinéma, l'enduro dont tu parlais, sais-je ou autre. Parce que en plus chaque cheval a son caractère. Est-ce qu'on sait vite à quoi il va être destiné?
Alors, disons que on peut, je pense, hein, on peut adapter différents types de chevaux à différents types d'activités. Maintenant, il y a des races plus prédisposées à certaines activités. Par exemple, c'est vrai que le cheval d'endurance, on va avoir des chevaux plutôt des chevaux de type arabe, des chevaux qui sont fins et lancés, qui ont un bon cardio, qui sont résistants dans les pieds pour courir sur les cailloux de Lozère. Et des chevaux d'obstacle, il leur faut d'autres qualités. Donc, il y a des races qui sont plus à même d'aller vers une discipline qu'une autre. Des chevaux de spectacle, par exemple, il faut des chevaux qui soient très très compliants, très facile à dresser, c'est autre chose qu'un cheval de sang qui va être un peu plus fougueux, un peu plus incontrôlable, et donc ça va être plus difficile de mettre dans le cinéma, par exemple.
Ça doit être génial de voir grandir un cheval et de se dire on y arrive, que ça doit procurer une émotion de fou.
Ouais, c'est incroyable.
Alors, on en parlait vite fait, on dit souvent les 160 km de Florac, c'est une course équestre super dure. Certains la critiquent, disent notamment que les chevaux sont pas faits pour ça. C'est quoi ton avis là-dessus?
Il y a plusieurs avis, c'est sûr. Maintenant, la course de Florac, il y a eu énormément de progrès en termes sanitaires. Donc les chevaux sont extrêmement bien suivis. C'est vrai qu'il y a eu des décès sur la course des 160. Elle est vieille, je ne sais plus en quelle année elle a commencé cette course, mais maintenant c'est quand même beaucoup plus clean, on va dire. Les chevaux courent, s'il y a le moindre petit souci, ils sont arrêtés. Et c'est pas grave s'ils ne terminent pas la course. Ouais, but, un cheval qui termine les 160 maintenant, je pense que c'est vraiment un bon cheval, mais aussi un bon cavalier, donc, et une bonne gestion de la course. C'est pas seulement le cheval.
Comment on déconstruit un cliché et comment les choses peuvent évoluer? Alors, tu l'as dit tout à l'heure, il y a un poulain qui a débarqué il y a pas très longtemps, tout va bien?
Tout va bien.
Alors, comme je disais, j'y connais rien, mais comment ça se passe pour trouver les talons? Est-ce que, tu les laisses toute l'année? Je sais que la question peut paraître bateau, mais comment ça se passe?
Non, c'est pas bateau du tout. C'est vrai que, du coup, moi, je me lance dans l'élevage de chevaux de sport ici en Lozère. C'est pas évident parce que on n'a pas des talons de chevaux de sport ici. Ou alors, si, il y en a, mais disons que si on veut un petit peu vendre les produits, il faut mettre des étalons un peu reconnus dessus. Et pour mettre des étalons reconnus dessus, en fait, ici, moi, j'ai pas trop d'autres solutions que de pratiquer l'insémination artificielle. Donc, j'ai de la chance, il y a 5-6 ans, quelque chose comme ça, que Marion et Gaëtan Lamorinière, là, qui sont installés à la Fichade, pratiquent ça. Donc c'est juste à côté, donc c'est super pratique. Et en plus ils font ça extrêmement bien. Donc voilà, moi j'amène mes juments à la période de reproduction au centre d'insémination. Avant ça, préalablement, j'ai choisi un étalon. Donc on a des catalogues, des étalons européens, français. On choisit la race, on choisit le modèle, on choisit un peu tout. On commande la semence et ensuite elle est envoyée au centre d'insémination et à la bonne période, à l'ovulation, elle est inséminée.
Moi, voilà. C'est très clair. Tu parlais de Belgique tout à l'heure. C'est quoi les formations un peu pour devenir éleveur de chevaux?
Alors moi, j'ai suivi aucune formation pour être éleveuse. Je me suis auto-formée sur le tas, on va dire, et j'ai encore plein de choses à apprendre, beaucoup, beaucoup. Maintenant, il y a plein de formations qui amènent à ça. Dès le lycée déjà. Des formations production, élevage de chevaux, il me semble à Saint-Afrique, je crois. Des filières spécifiques et où on peut commencer assez jeune et qui peuvent être très intéressantes. Après, plus tard, moi, par exemple, ce qui m'aurait intéressé, c'est de faire le BPREA à Florac, donc qui pourrait m'apporter aussi pas mal.
Qu'on comprenne, c'est quoi le BPR?
Alors, c'est...
l'acronyme, c'est
non, pas mais c'est un mais... brevet... alors, BP, c'est le brevet professionnel. REA, je ne sais plus exactement, c'est... C'est un brevet professionnel agricole. Je ne sais plus exactement le terme. Mais pareil, le BPREA, c'est une formation, mais on peut faire élevage de brebis, on peut faire l'apiculture, on peut faire maraîchage, on peut faire... Voilà, il y a plusieurs spécificités.
J'ai compris.
Et c'est vrai que je voulais me renseigner pour l'affaire, parce que je pense que ça peut apporter pas mal en termes de comptabilité, en termes de... Voilà. Autre que seulement pur, l'élevage pur, quoi.
Et ça se fait au CFPPA.
Ouais, au CFPPA Florac.
Est-ce qu'il existe, alors je sais pas, hein, donc, déjà on a parlé du pedigree, etc., mais est-ce qu'il existe des labels, je sais pas comment on pourrait appeler ça pour les chevaux?
Ouais. Donc, y a les papiers du cheval. Les papiers du cheval, c'est, on connaît le père, la mère, les grands-parents, voilà, toute la famille. Et après, en fait, il y a des concours qui permettent de qualifier les chevaux, de les valoriser. Donc là, en l'occurrence, moi, pour la race sel français, donc la race sel français, elle est regroupée dans ce qu'on appelle un stud book, qui s'occupe en fait de valoriser la race au mieux, donc par rapport aux autres races européennes. Donc c'est un peu la course à la meilleure jument, au meilleur étalon. Et donc dans ces concours, on y présente le cheval, on a des juges qui viennent évaluer le cheval et puis qui vont les classer, bon, très bon, élite. Donc voilà, en fonction de ça, en fait, on peut répertorier des juments, on peut classer des juments. Voilà, c'est un classement. Moi, j'aime pas trop ça, mais disons que c'est vrai que ça permet un petit peu de, par exemple, en ce qui me concerne, moi, ça me permet de juger un petit peu le type de jument que j'ai par rapport au lot de juments qu'il y a en France, et voilà, d'essayer d'orienter au mieux mes croisements et puis savoir vers où je vais, quoi. C'est vrai que c'est une échelle un peu pour pouvoir juger, s'auto-évaluer aussi. Dans l'élevage.
Et puis on parlait de ça tout à l'heure, c'est le prix aussi, quoi.
Et le prix aussi également.
Forcément.
Tout à fait.
Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de travailler avec les chevaux? Alors plus qu'un livre, on en parlait un peu en peine.
Quel conseil? Alors c'est compliqué parce que ça demande. Bon, moi je trouve que c'est j'ai que deux juments. Hein. Bon, je suis toute seule à m'en occuper, mais j'ai parfois quelques gens qui m'aident, mais c'est énormément d'investissement de temps, beaucoup de temps. Beaucoup de stress aussi, hein, parce que c'est pas une voiture, un cheval, donc ça se blesse, il y a beaucoup d'aléas et beaucoup d'argent. Donc il faut vraiment, disons que on se lance pas, je pense qu'on se lance pas comme ça dans l'élevage. C'est des animaux, comme on prend pas un chien pour juste prendre un chien, c'est pareil. Donc voilà, c'est vraiment de l'investissement, on peut pas lâcher du jour au lendemain, on doit être là tout le temps, c'est tous les jours. Donc voilà, faut du temps, de la patience. Un peu d'argent aussi, parce que faut les nourrir, les frais vétérinaires, faut tout ça. Donc c'est beaucoup d'investissement au début. Après, c'est que du bonheur. Enfin, après, je dis, une fois qu'on arrive à allier un peu tout ça, à se débrouiller, voilà. Moi, j'en suis au terme, en fait, où j'arrive à me débrouiller pour commencer mon élevage. Mais j'ai mis vraiment longtemps à le mettre en place. Voilà.
Et puis tu disais aussi hors antenne d'aller à la rencontre des gens qui s'occupent de chevaux.
Complètement. Oui, moi, je lis très peu. J'ai lu le plus que j'ai lu, c'est des bouquins d'équitation, de chevaux, mais c'est vrai. Mais disons que pour apprendre du monde du cheval, en fait, il n'y a rien de mieux que de côtoyer les chevaux et de côtoyer les gens de chevaux. Et tout type qu'il puisse y avoir, parce qu'il y a vraiment de tout dans le milieu du cheval. Moi, je peux pas dire que j'aime le milieu du cheval. J'aime le cheval, j'aime pas forcément le milieu du cheval.
C'est deux choses très différentes.
Ouais, complètement.
Qu'est-ce qui t'impressionne le plus chez tes juments?
Qui m'impressionne en termes de...
D'émotion, qu'est-ce qui te fait halluciner tous les jours quand tu les vois?
Moi, c'est la bête. Hein. Je trouve que c'est vraiment un animal qui apporte beaucoup. On leur donne beaucoup, mais ils nous donnent énormément. Parfois, j'ai l'impression d'avoir plus appris avec les chevaux qu'avec les autres humains. C'est assez marrant. Non, c'est ils nous rendent vraiment bien ce qu'on leur donne. Et voilà, c'est je sais pas comment dire. Hein. C'est vrai que c'est une passion depuis toute petite.
Ouais, je comprends.
Et c'est un peu voilà, on a l'impression que c'est une communication qu'on s'apprend mutuellement, et donc ça c'est super gratifiant.
D'où aussi des qualités dingues, ils peuvent soigner aussi, et d'ailleurs ils sont très utilisés.
Ah oui, tout à fait, ouais, l'équithérapie, c'est quelque chose qui est bien pratiqué ici, d'ailleurs à Zignères, il y a une dame qui fait ça avec ses chevaux. Voilà, c'est pas pour rien. Moi, je suis kiné, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais bien voulu mélanger aussi un petit peu, le monde du cheval, le monde de la kiné.
Tout est encore possible.
Tout est encore possible. Ouais. Après, il faut du temps. Voilà, le problème c'est toujours le temps. Mais voilà, oui, ça peut être thérapeutique, le cheval, complètement.
Merci beaucoup, Lou.
Avec plaisir.
Je sais pas, c'était une grande première pour moi. Je sais pas si j'ai posé les bonnes questions, mais en tout cas, c'était celle que je me posais. Et je finirai avec cette blague. Comme disait Alain Bachung, la nuit jument, je prends des trains à travers la... Voilà, j'ai réveillé Corto. Merci, Lou, et à très bientôt.
Avec plaisir, merci à vous.
Voilà, blague de bon matin, ça fait pas de mal. C'est la fin de cette matinale. Vous rappelez que le spectacle Zaï 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 Zaï, c'est ce samedi en plein air au square Émile Joly à Mende par la compagnie Blutac Théâtre et la Grégory qu'on a eu. Ce sera à 21h15. C'est la fin de cette matinale. Merci Corto.
Avec plaisir, Ben. Avec plaisir.
Même mes blagues, tu n'aurais pas. J'hallucine.
Ouais, je vais aller faire de l'équithérapie, peut-être.
En tout cas, on se retrouve mercredi. On sera entre autres avec la pianiste Joyce Boom. Merci à toutes et tous de nous suivre. Passez une excellente journée. L'été est là, ça y est, c'est sûr. Passez une excellente journée sur Radio Bartas. On se quitte avec Oh là là de Team Time Band et ses copains. Merci à toutes et tous. À mercredi. Ciao. His words, I thought he was a bitter man. He spoke of women's ways. He said they'll trap you and then they'll use you before you even know. He said love is blind and you're far too kind to ever let it show. I wish that I knew what I know now. When I was younger, I wish that I knew what I know now. When I was stronger, they can't such a pretty show. They'll steal your heart away. But backstage, back on earth again, the dressing rooms are grey. They come out strong, it ain't too long before they make you feel like a man. But love is blind, and soon you'll find you're just a boy again. She's twinkling with the stars. Oh, poor young grandson, there's nothing here I can't say. You either learn or you're just like me, and that's the hardest way. Ooh la la.